surprenant et c'est Madame Bergoiser de dire, mais...
J'ai un peu honte de le dire, mais j'ai été incarcérée 11 fois. Pendant quasiment 30 ans, j'ai fait des allers-retours en prison. À l'époque, j'étais mère célibataire et je cherchais un boulot facile. Le trafic de drogue. J'ai été incarcérée pour trafic à chaque fois, mais à l'intérieur, si tu veux être quelqu'un de bien, tu peux, tu travailles honnêtement. Mais bon, là-bas, comme dans toutes les prisons, il y a aussi des prostituées, il y a des drogués, certaines vendent de la drogue. On peut tout trouver, de l'alcool aussi, tout.
Venden droga, venden de todo, alcohol, todo.
RFI, grand reportage.
Violence, addiction, surpopulation carcérale, corruption du personnel, bâtiments en ruine. L'inventaire est sordide et vise les prisons en Bolivie. Parmi tous ceux qui sont derrière les barreaux, une population est encore plus vulnérable, les femmes, car elles sont oubliées par leur famille comme par les institutions. À La Paz, la prison d'Obrajes, véritable ville dans la ville, où l'on survit, met des enfants au monde, travaille aussi. Femme en prison, la double peine, c'est un grand reportage d'Alice Campagnol et Maud Calves.
Nous sommes bien 25, c'est ça? Je vais faire passer une liste. On est d'accord, vous êtes bien là pour l'atelier textile. Elles ont vu les caractéristiques de la concurrence. Ensuite, elles ont réfléchi à qui elles aimeraient vendre. Et maintenant, elles définissent les caractéristiques de leurs produits. Le but, c'est d'avoir un catalogue de produits à la fin de ces quelques jours de formation. Si je comprends bien, vous apprenez principalement à produire des étoffes. Et toute la partie administrative, la gestion, les coûts, la partie commerciale, vous avez vu ça ou pas du tout? Pas du tout, ok. Donc comment vous fixez vos prix? Toi par exemple, comment tu as mis ce prix de 650 bolivianos pour ton plaid?
Bonjour à toutes, bonjour professeur. Eh bien moi, je mets 3 semaines pour faire ce plaid, pour qu'il soit bien terminé.
Ok, donc si on parle de prix, cette bobine, elle te coûte combien par exemple?
Elle me coûte 300.
Et donc comment tu fixes ton prix?
Je ne veux pas exagérer. Même dehors, mon frère est allé se renseigner, ça ne coûte pas très cher un plaid dans ce genre.
Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? Je vais vous demander de vous mettre en groupe par 3, s'il vous plaît. Je vais distribuer des feuilles à chaque groupe. Allez, on s'y met. C'est la 3e fois que je viens ici en prison. Notre organisation Manca est basée sur un modèle d'éducation qui met en avant le savoir-être et l'entrepreneuriat. Je donne ici les mêmes cours que je donne dans toutes les villes du pays.
Ce sont des élèves différentes, le fait qu'elles soient détenues?
Oui, c'est sûr, mais malgré tout, j'essaie de garder en tête qu'elles sont exactement pareilles que si elles étaient à l'extérieur. Je les traite de la même façon que si elles n'étaient pas détenues. Je suis tout aussi exigeante avec elles. Mais c'est vrai qu'il y a des limites. On ne peut pas utiliser les téléphones portables, par exemple. Et là, je voulais faire des exercices pour que l'on étudie la concurrence, les prix, tout ça. Mais en fait, elles n'en savent rien puisqu'elles sont ici. Mais on s'adapte.
La professeure Maria René Plaza donne ses cours en prison dans le cadre du programme Emprendiendo para ser libre ou Entreprendre pour être libre. Le but, eh bien, donner des clés à ces femmes et certaines sont illettrés pour mener un petit commerce. Et c'est assez naturellement que s'est imposée l'idée de donner des cours d'entrepreneuriat à celles qui tricotent et qui tissent, car où que l'on soit dans la prison, eh bien, les détenus ont des aiguilles et de la laine.
Le tricot, c'est la seule activité qui nous fait passer le temps. On ferait quoi sans ça? Oh là là, on passerait notre temps à pleurer.
Tricoter, cela permet de nous distraire. C'est comme une thérapie. Quand on tricote, on ne pense à rien d'autre.
Et c'est Yana Rojas qui est à la tête de ce projet.
Être une femme détenue a ses particularités, notamment le fait qu'elle continue à être les chefs de famille et à entretenir financièrement leurs proches. Et à l'intérieur de la prison, il n'y a pas beaucoup d'options légales pour gagner de l'argent. Oui, il y a des emplois pénitentiaires proposés par l'administration, c'est une obligation légale. Mais en réalité, cela dure un mois ou deux, et puis c'est tout. Alors oui, ça leur rapporte un peu de revenus, mais rappelez-vous, les enfants, ils mangent tous les jours.
Dans la prison d'Obrajes, Iliana est une habituée, en quelque sorte, elle connaît et salue presque toutes les détenues.
Oh, mais comme tu as grandi!
Bonjour, comment ça va?
Ça va, et toi? Oh, elle est déjà grande, quel âge elle a maintenant?
6 mois.
Ah, je t'ai amené des couches trop grandes, je crois.
Et en effet, les projets comme le sien ne sont pas si nombreux dans cette prison. C'est-à-dire d'une part des projets de réinsertion, mais qui permettent également aux détenus de gagner leur vie tant qu'elles sont entre ces murs.
L'administration pénitentiaire elle-même doit faire avec un personnel très réduit. Alors psychologue, avocate, assistante sociale, il y a une seule professionnelle, parfois pour plusieurs prisons. Donc si une détenue a besoin d'une consultation psychologique, qui va s'en charger? Moi, je crois qu'il manque beaucoup d'institutions pour monter des projets avec les femmes incarcérées. On parle beaucoup plus des hommes prisonniers. Bon, aussi parce que les femmes sont moins nombreuses en prison. Si je ne me trompe pas, par rapport aux hommes, les femmes détenues représentent seulement 7% des prisonniers dans tout le pays. Donc, où vas-tu mettre la priorité? Sur les plus nombreux? Bref, il y a peu d'organisations qui travaillent avec elles. Moi, je vois surtout des églises catholiques, évangélistes, qui viennent travailler sur le spirituel. Mais la réinsertion ou encore l'aide juridique, non, vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde pour les aider.
Et justement, au cœur de la cour principale de la prison, il y a la chapelle. Alors, quelques marches mènent à un espace qu'on aimerait peut-être un peu plus silencieux. Les fenêtres n'isolent pas vraiment du cours de fitness que l'une des détenues organise à l'extérieur. Mais il y a bien des bancs alignés, des cierges et un Christ derrière le cœur. C'est la sœur Fidelissa qui règne ici, de la congrégation du Bon Pasteur.
Bonjour, on m'a dit que le consulat organisait une réunion.
Oui, tout à fait. L'avocate du consulat est en route. Tu as un problème?
Oui.
Eh bien, réunissez-vous toutes dans la chapelle. L'avocate vous retrouvera ici.
Et elle arrive?
Je crois qu'elle m'a dit à 10h.
La chapelle ne sert pas uniquement pour les prières, mais aussi pour les rassemblements, car l'espace manque et aujourd'hui, ce sont les détenues péruviennes qui se retrouvent ici.
Avant, nous tenions la prison, nous, les sœurs. Et cette prison, c'était une demeure familiale à l'origine. Il y avait maximum, grand maximum, 90 détenus, vous imaginez. Ici, c'est de la folie maintenant. C'était un palais, cet endroit. Maintenant, vous le voyez, c'est déprimant.
Au moment du tournage, elles étaient 319 détenues pour un établissement destiné à maximum 150 personnes. Une situation donc épouvantable de surpopulation avec tout ce que cela implique, la possibilité ou pas d'avoir un travail au sein de la prison, l'espace dans les dortoirs, les sanitaires, etc. Juste derrière la chapelle, il y a une autre cour, celle que l'on voit moins, aux aires de bidonville. On y circule dans des passages étroits, couverts par des bâches. L'activité ne semble jamais s'y arrêter. Et dans de grands bacs en ciment, au fond de la cour, une détenue est en train de laver du poisson pour le repas de midi. Elle a décidé, assez ironiquement, de se faire appeler Félicité.
Avant, on était 170. Et maintenant, plus de 300. Ça peut même aller jusqu'à 500 personnes. On n'a presque pas les services hygiéniques de base. Par exemple, on a seulement 4 toilettes pour 300 personnes. Ça pose beaucoup de problèmes sanitaires. On est nombreuses à avoir des infections urinaires. Les douches, c'est pareil. Il n'y en a que 6 qui fonctionnent. Et parfois, il n'y a même pas assez d'eau pour tout le monde.
Et pour dormir ?
On dort sur le sol, serré comme des sardines. Maintenant, on est plus de 25 dans chaque dortoir. Or, il n'y a que 17 sommiers, donc les autres, elles dorment sur le sol, sur des matelas en éponge.
Et pour gagner sa vie, elle fait des petits boulots au sein de la prison.
J'ai 5 enfants à l'extérieur que je dois nourrir. Je fais office de père et de mère pour eux, car mon mari est mort. Donc je passe mon temps à faire des petits travaux, mais il n'y a pas grand-chose. J'économise, je lave des vêtements, j'aide à la cuisine, j'aide les gardiennes à distribuer les repas. Et donc avec tout ça, j'économise un peu pour envoyer de l'argent à mes enfants. Je lave aussi la vaisselle de femmes qui ont de l'argent, à 30 centimes d'euros l'assiette, ou encore leurs vêtements, 1 euro la pièce. Et avec ces petits services, on gagne un peu d'argent. Surtout celles comme moi qui passent des années ici.
Car s'il y a bien ici ce que l'on appelle des beneficios, des emplois pénitentiaires, il n'y en a pas assez vu la surpopulation de la prison. Alors on peut être chargé de la cuisine ou du blanchissage, mais après bien quelques mois, il faut laisser sa place. Parmi les beneficios que l'on peut garder plus longtemps, les magasins, alors dans cet autre cour, ce secteur dit des toldos, il y a justement donc ces minuscules boutiques faites de briques. L'une vend des vêtements, 2 sont de petites épiceries, une autre plus loin vend du fil et de la laine. Alors Sonia Castillo est actuellement la locataire entre guillemets de l'une de ces échoppes.
Je vends des pâtes, du riz, du sucre, des boîtes de conserve, des cahiers, des stylos, du chocolat, etc. Ah pardon, excusez-moi, vends-lui 2 sacs en plastique à 10 centimes s'il te plaît. Bref, j'ai un peu de tout et c'est pas cher. C'est comme ça que l'on survit ici.
Parce qu'ici tout se paie, hein, c'est ça?
Oui, ici tout se paie. Le plus gros poste de dépense, ce sont les produits d'hygiène, le shampoing et les protections périodiques. Bon, moi personnellement, j'avais un petit pécule. C'est pour ça que j'ai acheté ce beneficio.
Et c'est combien?
1300 euros, enfin 2000 euros pour le remplir de tous les produits.
Donc derrière les barreaux, comme à l'extérieur, eh bien il y a ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. C'est la différence entre Sonia, qui a racheté, si l'on peut le dire ainsi, son petit magasin à une autre détenue et qui a même une vendeuse, et Félicité qui lave donc les assiettes de ses co-détenus pour 2 bolivianos. Ici, on paie même pour une chambre à soi, hein, histoire de retrouver un semblant d'intimité, de garder ses affaires, parfois avoir des relations sexuelles avec sa partenaire. Une chambre de jour, hein, car la nuit, toutes les détenues la passent au dortoir, comme l'expliquait Félicité. Sylvana s'est acheté un petit espace.
Imagine une très grande pièce qui est divisée en tout petits espaces dont les parois sont faites de bois aggloméré, avec sa propre porte. Et ça, une détenue peut se l'acheter pour 300, 400, voire 700 euros. Ça dépend si la prison est remplie, les prix augmentent, comme partout, et ça devient hyper cher. Moi, j'ai eu de la chance, je me suis acheté un espace quand la prison était vide. Ça m'a coûté 100 euros, alors que ça aurait dû me coûter le double. C'était tellement petit que je pouvais seulement m'allonger à moitié.
Et dans le secteur des toldos, avec ses allures de favela, il y a aussi des espaces à louer plus grands et plus confortables qui se transmettent aussi de détenu en détenu selon les libérations et les nouvelles arrivées.
Il y a d'autres chambres qui font 2 mètres sur 1,50 m. Elles sont dans la deuxième cour et elles sont faites en briques et il y a un toit. C'est mieux, tu as plus d'intimité. Ça coûte entre 500 et 1000 euros.
Mais c'est cher.
Oui, mais si tu dois passer pas mal de temps ici, tu ferais quoi, toi? Évidemment, tu l'achètes, sinon pendant toute la journée, tu ne fais que traîner dans la cour, sous le soleil ou je ne sais quoi encore.
L'atelier de production textile se situe justement dans ce secteur des toldos et le cours d'entrepreneuriat n'est toujours pas terminé. Yana Rojas sort quelques instants.
Oh, le petit bébé, elle est née ici, c'est ça?
Et dans les bras d'une détenue au trait tiré, un tout petit bébé d'à peine 1 mois.
Mais qu'est-ce que tu es jolie! Ne pleure pas, je te rends à ta maman. Bonjour madame la directrice, comment allez-vous?
La directrice, l'officier Sempertegui, n'est jamais très loin, pas très à l'aise avec les micros dans son établissement. Alors elle préfère nous accorder un moment au calme dans son bureau. Et l'une des grandes problématiques de la prison, eh bien, ce sont les enfants, justement.
Moi, je crois que c'est très important de maintenir le lien entre la mère et son enfant. Conformément à la loi 2298, les enfants qui vivent ici en ce moment ont de 0 à 6 ans. En ce moment, nous avons à l'intérieur environ 15 enfants. Ce chiffre oscille entre les naissances et les moments où les mères les confient à un membre de la famille, un oncle, des grands-parents, des beaux-parents.
Finalement, c'est peut-être mieux que les enfants restent avec leur maman.
Non, je ne suis pas sûre.
Non, je n'en suis pas sûre. Quand ils sont encore petits, c'est bien qu'ils restent près de leur mère. Mais ici, nous sommes quand même dans un centre pénitentiaire et plus ils vieillissent, plus ils prennent conscience de choses qui ne sont pas de leur âge. On peut avoir le cas, par exemple, qu'une autre détenue cherche à leur faire du mal ou simplement est une mauvaise influence sur le mineur. C'est un vrai risque.
Et ce que ne dit pas la directrice, c'est qu'il n'y a pas de médecin disponible 24 heures sur 24 dans la prison, encore moins un pédiatre. Et si la séparation mère-enfant n'est jamais facile, certaines préfèrent tout simplement ne pas les accueillir ici.
Il y a beaucoup de mères qui préfèrent ne pas les garder ici, ou même qui choisissent de ne pas recevoir leur famille pour que leurs enfants ne voient pas cet endroit, car elles ne veulent pas montrer qu'elles sont enfermées. Et tant qu'on y est, j'aimerais parler d'une particularité que l'on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. Les détenus hommes ont beaucoup de visites de la part des femmes de leur famille. Et par contre, ici, les détenues femmes sont oubliées. Le temps passe et les visites s'espacent peu à peu jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Dans les faits, certaines n'ont pas reçu de visite depuis plusieurs années. Et puis, ce sont toujours les femmes qui essayent d'appeler à la maison, d'avoir des nouvelles.
Et en effet, toutes les détenues, toutes sans exception, évoquent l'abandon de leur famille, les visites qui se font de plus en plus rares, les coups de téléphone qui s'arrêtent, comme Félicité.
Ici, on devient forcément mère célibataire, parce que ta famille te laisse tomber, ton conjoint, tes enfants. Être ici, c'est tout perdre. Ce n'est plus la même communication avec tes enfants et ta famille en général. Beaucoup de couples se brisent, les maris partent souvent. Ils quittent leur femme détenue.
Si Félicité est si démoralisée, au-delà de l'absence de sa famille, c'est aussi qu'elle n'a pas encore été jugée et elle est là depuis si longues années. Comme 67% de ses camarades de galère dans tout le pays, elle est en détention préventive. Et ça, eh bien, c'est la triste réalité de la justice bolivienne, dysfonctionnelle, inefficace, rongée par la corruption. Alors, eh bien, les détenus perdent espoir, la tristesse, la dépression, ce sont des mots communs ici. Mais trois fois par semaine, un sursaut dans le quotidien monotone de la vie pénitentiaire, eh bien, ce sont les jours de visite, le dimanche notamment.
Et mi bolsa traigo pan.
Dans mon panier, j'ai du pain, des feuilles de coca, du papier toilette. À chaque fois que je peux venir, j'amène ce dont elle a besoin. Du dentifrice, par exemple, ou des produits d'hygiène. Ça, c'est le plus important. Mais surtout, ce qui importe, c'est la visite. Ça lui fait du bien au moral, psychologiquement. Tout le monde n'a pas cette chance. Il y a certaines détenues dont les familles se sont fatiguées et les ont abandonnées. Au début, ils viennent, pendant 6 mois, 7 mois, allez, peut-être 1 an. Mais quand elles ont une condamnation de 2-3 ans, la famille en a assez. Alors moi, quand je viens voir ma sœur, nous restons parfois avec des amis à elle qui n'ont personne. C'est vrai aussi qu'il y a le facteur économique. Tout le monde n'a pas l'argent pour venir jusqu'ici et puis ça réclame pas mal d'efforts quand on vient de loin.
La file devant la prison en ce dimanche matin n'est pas très longue. Il y a une petite vingtaine de personnes qui attendent pour entrer dans l'établissement et passer quelques heures précieuses avec une sœur, une fille, une nièce ou une maman. Peu de maris, par contre, ici, car à l'extérieur de la prison, la vie continue. Et pour beaucoup, comme pour les institutions, il semblerait, il vaut mieux oublier celles qui sont enfermées.
Femme en prison, la double peine, un grand reportage d'Alice Campagnol et Maude Calves, réalisation Pauline Leduc.